Bonjour à tous, vous écoutez Radio Bulle 93.6, votre radio de la Genêt. Bienvenue dans ma bulle de sagesse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cyril Bolland. Bonjour Cyril.
Bonjour Myriam.
Alors Cyril, vous êtes apiculteur dans le pays de Serres, dans le nord de la Genêt. Vous me disiez que lorsqu'on s'occupe des abeilles, on n'est pas fixé dans un endroit. Pour l'instant, vous êtes sur Montpezat. C'est ça ?
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de déménager. Et donc, on va dire que pour l'instant, mon activité est encore centralisée sur Montpezat et autour. Et que là, on se déplace un petit peu plus vers Preissas, la Cépède.
Et donc, nous pouvons avoir la chance d'acheter votre miel, parce que vous vendez votre miel sur les marchés et également le pain de votre épouse.
C'est ça, voilà. Donc, le marché de Montpezat qui vient de se recréer, on va dire, qui est le mercredi soir et le mercredi matin à Saint-Sylvestre sur l'Ot. Voilà.
Et alors, si je vous ai invité venir dans mon émission Envie de Sagesse, dans mes interviews d'Envie de Sagesse, c'est parce que vous exercez également une autre fonction surprenante en Lot-et-Garonne, parce que nous verrons que vous n'êtes pas si nombreux. Vous êtes diacre de l'Église orthodoxe.
Oui, c'est ça, tout à fait, depuis un an et demi.
Alors, c'est sur ce côté-là, et peut-être que les deux sont liés, les abeilles, les petites abeilles, et puis la paroisse. Enfin, voilà, vous allez nous parler un petit peu de votre parcours. Alors, ça a commencé quand, cette quête de sagesse pour vous ?
Oula, on peut dire que ça a démarré, je pense, très jeune. Voilà, donc moi, je suis issu d'une famille, on va dire, catholique, pratiquante, et que j'ai eu l'occasion d'aller régulièrement à l'église de tout petit. Et puis, j'étais très interpellé par les questions concernant Dieu. Voilà, donc j'ai très vite fait, en fait, ce qu'on appelle la première communion. Voilà, dans le langage catholique, je crois qu'à 4 ans, voilà, je faisais ma première communion, ce qui était très jeune pour l'époque. Et je pense que c'est une question qui m'a toujours énormément habité et qui ne m'a jamais quitté. Voilà, même si après, mon chemin m'a amené par bien des péripéties.
Ah oui, peut-être que ça serait intéressant justement de parler de ces péripéties. Et vous étiez pas sur Agen à
l'époque. Pas du tout. Non, vous voyez, j'ai pas l'accent Lot-et-Garonnais. Je suis originaire du centre de la France, voilà, de la région d'Orléans, dans la campagne orléanaise en fait, pour être exact. Voilà, du milieu plutôt agricole, père agriculteur et mère prof.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui.
Et donc j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans là-bas, et après je suis parti faire des études d'agronomie. Qui ont duré 5 ans.
Ingénieur,
voilà. Et à l'issue de ces études, j'ai voulu partir 2 ans à l'étranger. Et avant de partir, j'ai eu besoin de partir sur le chemin de Saint-Jacques.
Ah tiens.
Voilà.
Eh bien, beaucoup de personnes qui passent sur ce plateau dans mon émission ont ce point commun d'avoir fait le chemin de Saint-Jacques.
D'avoir fait le chemin de Saint-Jacques. Alors moi, du coup, je l'ai fait en 3 fois, en fait. Une première partie, je suis parti du Puy-en-Velay jusqu'à Roncevaux, donc l'année où j'ai eu mon diplôme. Et je suis parti après 2 ans en Afrique. Et en rentrant de ma coopération en Afrique, j'ai continué. Je suis reparti, je crois, de Lourdes, voilà, et j'ai continué jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et puis le Finistère, en fait, le Cap Finistère qui est au bout de la pointe de Galice.
Et qu'est-ce que vous avez vécu pendant ce pèlerinage ? Vous étiez jeune quand même ?
Oui, j'avais 23 ans. Ah, 23 oui. ans quand je l'ai démarré et 25 quand je l'ai terminé, dans ce sens-là, parce qu'en fait, j'ai vécu ce que vivent beaucoup des gens qui font ce chemin. La plupart du temps, c'est ce qui est très marquant, je pense, sur ce chemin, c'est de se retrouver en face de soi-même d'abord, puisque je marchais seul, enfin, j'étais pas accompagné de ma famille. Et puis, beaucoup de rencontres, en fait, parce que c'est vraiment un chemin où tous les soirs, on est accueilli dans des gîtes, et c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup d'échanges qui se créent. Voilà, moi, c'était une époque, en plus, de ma vie où j'étais beaucoup plus loin de l'Église, d'une manière générale, et où j'avais beaucoup de questions. Et ça a été une expérience très forte, très, très forte. Mais c'était des expériences d'un mois, et en fait, c'était assez frustrant de ne marcher qu'un mois, parce que j'étais parti, comme je vous le disais, à la fin de mes études, et puis j'ai terminé en rentrant d'Afrique. Donc, du coup, ça faisait 2 fois un mois, à peu près. Et en arrivant à Saint-Jacques, j'avais envie de marcher beaucoup plus longtemps que ça. Et je me suis aperçu qu'il y avait des personnes qui étaient arrivées depuis Jérusalem. Et je me suis promis qu'un jour, je le ferais.
Ah oui.
D'aller jusque Jérusalem.
À pied, en fait.
À pied.
Ah oui.
Ouais. Alors, je pensais le faire à ma retraite. Et au final, je l'ai fait 3 ans après.
Ah, vous y êtes allé aussi ?
J'y suis allé. Ah, oui. Ouais, je suis reparti de Saint-Jacques de Compostelle en 2007, après une autre expérience professionnelle, 3 ans là, dans le centre de la France comme commercial. Et j'avais vraiment envie d'approfondir ce que j'avais commencé à toucher du doigt sur ce chemin d'un approfondissement intérieur. Et en fait, là, j'ai marché quasiment 1 an.
Et seul, encore
et
une
seul.
Fois
ah, et seul, ouais.
Vous aviez quel âge, 26
ans ? Là, du coup, j'ai démarré le jour de mes 29 ans.
Ah oui, c'est vrai.
J'ai commencé à marcher le jour de mes 29 ans, en 2007.
Vous étiez un célibataire ?
Je venais de rompre avec mon ami.
Ah oui, parce que partir un an, et oui. Donc.
Ouais,
et oui, c'était une manière de faire cette transition, ce deuil, entre guillemets, et en même temps de repartir sur vos premières questions.
C'était surtout un choix. Enfin, j'avais posé ce choix-là quelques mois avant. Enfin, ça a mis 1 an, en fait, entre le moment où j'ai vraiment décidé de partir et le moment où j'ai pu le concrétiser. Donc, j'ai eu le temps de le préparer, si vous voulez, ce départ. Après, je savais que c'était un voyage au long cours, donc ça demandait un petit peu de temps, de préparation, de savoir à peu près par où j'allais passer, de constituer la cartographie, de préparer mes postes restants pour me faire envoyer des colis avec des chaussures de rechange, des choses comme ça. Enfin, j'ai bien organisé mon départ, ça n'a pas été quelque chose de spontané, ça a été une préparation. Et ça a été un désir de changer de vie, en fait. Ça a été vraiment, pour moi, une rupture entre ma vie...
Une ancienne vie professionnelle,
ouais,
peut-être
un début de vie professionnelle. Je n'avais pas une grosse, grosse expérience professionnelle encore, mais vraiment un vrai désir de transformation intérieure.
Et vous avez pris toutes ces décisions seul ou il y avait quelqu'un dans les coulisses qui vous accompagnait ou vous demandiez conseil ?
Je demandais conseil. Pas toujours aux mêmes personnes, mais c'était vraiment une conviction forte intérieure. C'est-à-dire, je sentais qu'il fallait que je le fasse. C'était pas... Donc, si vous voulez, j'en ai parlé, mais en général, ce genre de décision-là, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je sais que je préfère les tenir un peu dans le secret du cœur jusqu'à avoir une confirmation. C'est-à-dire que, en fait, mon expérience me faisait dire que pour des décisions importantes dans la vie, bien sûr que ça peut être important d'en parler vraiment avec des gens de confiance, mais c'est aussi quand c'est quelque chose qu'on, quelque part, on a un peu comme la certitude qu'on va faire, mais que ça demande du temps, il vaut mieux le garder pour soi et le laisser maturer en soi. Et le moment où là, on sait, on est prêt, là, on peut en parler. Moi, j'ai plutôt attendu ce moment-là pour en parler. Alors, c'est vrai que ça a étonné beaucoup les amis, la famille, mais au moins, je savais que j'allais le faire et je ne risquais pas d'être déstabilisé par des questions ou des peurs que les autres pourraient me renvoyer. Voilà.
Et ce que je veux dire, c'est que donc, à ce moment-là, vous n'étiez ni encore orthodoxe, ni non. complètement en pied dans les catholiques. Vous étiez en train de chercher votre route.
Oui, je m'intéressais beaucoup aux traditions orientales à l'époque, et encore maintenant, puisqu'en fait, l'orthodoxie est un christianisme oriental.
Oriental, oui, ça va.
Et j'étais en recherche parce que c'est vrai que j'avais du mal à me retrouver... j'avais besoin de vivre et de trouver, de chercher autre chose que ce dans quoi j'avais grandi. Voilà.
Et donc, vous cherchiez dans les livres ou est-ce que vous avez fait des rencontres ?
Dans les livres, dans les voyages que je faisais. Mmh. J'ai eu la chance pendant mes études de beaucoup voyager, de m'ouvrir à pas mal d'autres cultures. Et quand je suis parti, vous voyez, 2 ans en Afrique, j'ai aussi été confronté, j'étais dans un milieu plutôt musulman, donc j'ai été beaucoup plus en lien avec les musulmans finalement qu'avec les catholiques là-bas. Et j'ai essayé de prendre du temps avec eux, d'apprendre à les connaître, de même prier des fois avec eux. C'était ce désir de connaître l'autre dans sa différence et puis d'approfondir mon propre chemin spirituel à travers la découverte d'autres traditions. Voilà.
Ah oui, tiens, ça me rappelle, puisque je viens de découvrir une BD au salon de BD sur Charles de Foucault.
Ah oui, oui, voilà, qui a été, lui, en pays...
C'est pas en Algérie ? Enfin, en tout cas, c'est dans le désert.
En Algérie, oui, dans le désert algérien, pardon. Oui, oui, Charles de Foucault. Oui, ma femme aime beaucoup.
Oui. Alors, je vous propose une première pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.